Bonjour, nous sommes à la médiathèque de la Chapelle en Vercors pour Lire les montagnes édition 2022. Nous vous donnons la bienvenue et nous accueillons en premier Marie-Odile qui va nous présenter trois petites lectures. Je te laisse le micro, Marie-Odile.
Sylvain Tesson, vous le connaissez, c'est un guide de haute montagne qui a écrit la fameuse Panthère des neiges ou Dans les forêts de Sibérie. Et son dernier livre s'appelle Blanc. Il est parti pour faire une randonnée à ski pour traverser les Alpes depuis Menton jusqu'à Trieste à ski, en randonnée à ski. Donc ça représente 90 journées de randonnée à ski. Il a fait ses journées sur 4 ans. Ça s'est étalé sur 4 ans. Voilà. Donc, je vais vous lire un premier extrait qui concerne le cinquième jour. Il allait de Madone de Fenestre au Boréan, par le Pas des Ladres. Un peintre suisse du monde d'hier, Kuno Amiette, avait représenté au début du XXe siècle un skieur dans un paysage de neige. Un point dans une nappe blanche, jaune plus exactement. Enfin, couleur de chair, puisque la neige, c'est la peau du ciel écarrée sur la terre. Je voulais devenir ce personnage, une présence sans valeur dans un monde sans contour. Le voyage deviendrait un déplacement dépourvu de finalité, suspendu dans le monochrome. Ce serait l'action pure, parfaitement réduite à son seul accomplissement. Il y aurait la sueur, le silence et la trace. Les portes s'ouvriraient. J'entrerai dans le Vierge, dilué. Nous quittâmes la Madone. Dans la montée vers le Pas des Ladres, j'éprouvai pour la première fois le sentiment de dissolution de soi par absorption dans l'espace. Oh, certes, l'effort était court. Il n'y eut que 500 mètres à gravir. Mais ces instants cotonneux, dans l'absence d'horizon, suffisaient à désagréger la conscience. J'avançais, le visage réverbéré dans la clarté, regard fixé sur les spatules. Les skis battaient la mesure de leur cisaillement. L'allure était juste, le corps reposé, l'angle parfait. Le temps remontait l'espace. Le mouvement hypnotisait l'esprit. Le monde disparaissait dans sa propre blancheur. C'était l'anéantissement. Il faudrait bien que le corps tombât d'épuisement. On aurait atteint le col avant. Au Pas des Ladres, on reçut la Lombarde. Vent d'est italien, soudain levé, qui arrache la neige par plaques et enflamme les crêtes d'un incendie blanc. 800 mètres plus bas, la forêt nous protégerait. Voilà, la traversée donc, dure 80 jours. Et à la fin du livre, Sylvain Tesson raconte son adieu au blanc. Pendant 4 ans, j'avais poussé les portes d'un royaume physique et onirique. Chaque jour, l'impression de passer le seuil. Derrière, la vaporisation. Sans hâte ni recours, je rejoignais un monde sans contour. Les structures du paysage se métamorphisaient en un motif unique. Massifs et vallées s'étaient succédés. Alpes-Maritimes, Ubaï, Savoie, Valais, Tessin, Grison, Tyrol, Alpes-Juliennes. Ces espaces avaient perdu leur délimitation pour se dissoudre en un seul principe dont l'absence de singularité garantissait l'éclat. Le blanc s'étendait dans l'indifférencié, par-delà l'histoire et la géographie. Le blanc ne constituait pas un milieu naturel, encore moins un paysage, mais une substance. Rapportée au monde abstrait, une substance s'appelle l'universel. Sa traversée s'appelle un rêve. La neige était un élément transitoire, fragile et éphémère. Un jour elle fondait, Le monde revêtait alors une forme que le manteau avait dissimulée. On croyait se glisser dans un décor, on s'invitait dans une parenthèse. Dans le blanc, tout s'annulait, les vœux comme les regrets. On se suspendait dans une méditation scandée par le mouvement. La joie de la contemplation se mêlait à la jouissance de tracer dans l'absolu. L'effort seul opérait le décompte. La fatigue sacrait le sentiment d'accomplissement. Ainsi, pendant des jours, flottait-on en état de dématérialisation. Le blanc avait rectifié le monde selon le vocabulaire alchimiste. L'élément était une matière qui devenait une pensée. Déposée sur la terre, emplissant la vue, le blanc investissait l'esprit. Était-ce une opération mystique ? Le monde avait connu une transmutation. Nous aussi, peut-être. Dans le vent, quand le jour devenait blanc, on allait réduit au seul point d'avancée, au seul soin d'avancer. Le blanc envahissait l'être, organisait l'oubli. L'esquive battait. En soi, fin du logos. Dehors, absence des formes. C'était le Tao de l'effort. Parfois, il nous semblait nous évanouir vivants. Où allait-on ? Peu importait. Peu importait. Pour combien de temps ? Aucune idée. Rimbaud disait « Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme. » Remplacer amour par blanc. Puis arrivait le soir, dans le refuge, l'autre hypnose, celle des flammes. Le corps se reconstituait cellule par cellule. Demain, on repartirait. On buvait du thé, après le blanc, le chaud. Et l'esprit revenu à sa propre surface tâchait de se rappeler les tableaux de la journée. On revoyait les tours noirs, les crevasses bleues, les vallons blancs et les versants de brouillard. Si je l'avais su avant, j'aurais récité la fin du psaume de David dans les cabanes du soir. La bûche de pain aurait craqué dans le poêle, le verset aurait résonné comme un cri de gratitude au terme d'une journée de liberté sur la montagne, vécue dans l'oscillation entre l'effort de la brute et la communion de l'ange. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Un livre de Paul Keller, La montagne oubliée. On l'aura compris, je plaide pour que les alpinistes, y compris les guides, n'oublient pas la montagne. Je plaide pour qu'ils ne se laissent pas contaminer par tout ce qui pollue notre rapport à la montagne et la dénature. Le suréquipement des sites, des voies et des grimpeurs. La marchandisation des paysages et des pratiques. La compétition. La médiatisation démesurée des exploits. Et j'en passe. Sans la montagne, les alpinistes et les guides ne sont rien. Aussi leur revient-il, aux uns et aux autres, de défendre sa nécessité et son authenticité, d'en être des découvreurs, mais aussi des interprètes et des médiateurs. Tout être humain a besoin pour vivre que se croisent en lui le réel et l'imaginaire, l'ordinaire et l'extraordinaire, la prose et la poésie. L'alpinisme offre la possibilité de tels croisements. Il forme des hommes et des femmes pour qui, en montagne et ailleurs, sont inséparables la marche qui est de tous les jours et l'horizon qui donne le sens. Lionel Terré écrivait que ce qui donne sa valeur à une grande ascension, c'est autre chose qu'une accumulation de passages d'une extrême difficulté. C'est cette autre chose que cherche et trouve la grande majorité des alpinistes, quel qu'en soit le niveau. La montagne est pour eux, simultanément, le lieu d'engagement et de solidarités extrêmes où parfois la vie même est en jeu et dépend de l'autre. Elle est aussi l'espace où l'on cherche sa voie et où des traces peuvent éviter de se perdre. L'espace, enfin, où l'on parvient à quitter les chemins battus et à s'aventurer là où aucun signal humain ne précède. C'est un monde qu'il faut apprivoiser et aimer, plutôt que conquérir et soumettre. Un livre de Lionel Daudet, son premier livre, La montagne intérieure. La montagne intérieure, c'est à l'horizon des plaines cendrées, dans ce sourire aux orteils disparus. Elle est apparue là, définitivement. Elle devait se tapir par là, et je ne l'avais pas entreaperçue que par de fugaces éclairs. Sans doute une illumination nouvelle m'avait-elle permis de la voir, celle qui était, depuis toujours, là. La montagne dans l'ombre, la montagne intérieure. Le puzzle de toutes ces ascensions se reconstitue enfin. Sans doute n'ai-je escaladé toutes ces montagnes que pour comprendre qu'une seule valait la peine d'être gravie, la montagne intérieure. Commencez l'escalade, me suis-je dit. Enfin, et qu'on me fiche la paix, qu'on me laisse vivre et mourir, comme il se doit. Seulement, elle ne semblait jamais se rapprocher comme je marchais vers elle. J'étais beaucoup trop chargée, c'est sûr. Jusqu'à cet instant où j'ai compris. La montagne intérieure est la montagne qui ne s'escalade pas. La voilà qui disparaît dans les brumes. Les brumes me happent à mon tour. Perte de repère, perte de soi. Qui ? Où ? D'où ? La montagne intérieure, de par son altitude, efface les questions comme les réponses. Elles n'ont plus lieu d'être. Oui, je le savais, l'alpinisme n'est rien d'autre qu'un bête outil. Et tout le monde a son outil. Et tout le monde devrait s'en servir pour aller à son sommet. Et tout le monde devrait continuer l'escalade après le sommet. Devrait. Car il n'y a pas de sommet. Car il n'y a pas d'escalade. Mais un simple mouvement auquel on s'accorde, un vent insaisissable balaye d'une merveilleuse contrée. Mais personne ne sera plus là pour le raconter. À part peut-être l'ombre rayonnante de cette montagne et le vide et une lumière. C'est habité. Il n'y a plus qu'à rentrer, faire connaissance.
Alors, je vais vous présenter un livre de Jean-Christophe Ruffin qui s'appelle « Les montagnes humaines ». Il écrit sur Tita Piaz, qui était surnommé le « Diable des Dolomites ». Tita Piaz est né en 1879, il est mort en 1948, bêtement d'un accident de vélo, alors que c'était un très grand alpiniste. C'est un Autrichien de naissance. Et il a été le premier à conquérir la Punta Emma. Donc, je présente d'abord ce commentaire. Et ensuite, vous aurez le texte de Tita Piaz. J'aime d'abord le personnage de Tita Piaz. Même s'il pratiquait l'alpinisme avec rigueur, il ne se prenait pas lui-même au sérieux. Il avait un grand sens de l'humour et beaucoup de recul sur sa pratique. L'humour n'est pas si fréquent dans la littérature de montagne, où le drame est souvent privilégié. Tita Piaz aimait tout simplement la vie, le rocher, les femmes, les voyages, l'escalade, dont il avait une conception quasi charnelle. Il a évolué dans les Dolomites durant les premières décennies du XXe siècle, ou à une époque où l'escalade se faisait en cheminée. Il était très fort en la matière. Il a réalisé de nombreuses premières dans ce massif, notamment au Tour de Vajolet. Certaines voies de ce secteur portent son nom et renvoient directement à sa personnalité. comme il le raconte dans son livre « La Punta Emma », un sommet de 2617 mètres, est un hommage à Emma, la servante du refuge Vajolet, située à proximité, dont il était secrètement amoureux. Cette ascension est aujourd'hui un grand classique. Tita Piaz avait des sortes d'intuitions aériennes et créait des voix très pures, droites, qui lui ressemblaient, notamment au Spigolo du Sas Pordois qui porte aujourd'hui son nom. À travers sa controverse avec Paul Preuss, l'autre alpiniste en vogue de cette période, Tita Piaz incarne un versant solaire de l'alpinisme. Preuss plaidait pour un alpinisme sans aucune aide et refusait notamment le recours au rappel. Il était pour l'escalade libre, à la montée et à la descente. C'était réussir ou mourir, et il est mort à 27 ans. Paul Preuss était un jeune homme un peu autiste, solitaire, attiré par la mort, sinon par une forme de sacrifice. Il avait un côté presque mystique. Piaz, à contrario, incarnait la vie. À la différence de Preuss, il défendait un alpinisme de bonheur et de sécurité. La plus belle course est celle dont on revient entier. Cette controverse a constitué un moment charnière de l'alpinisme, un carrefour dont les conséquences ne sont pas anodines. Suivre la voie prônée par Preuss aurait conduit à une toute autre pratique de l'alpinisme, puriste, extrême. Tout le monde suit les recommandations de Piaz aujourd'hui. On fait du rappel, on s'assure. Je me suis toujours située du côté de l'alpinisme, plaisir que Piaz incarne avec un petit air facétieux. Il se considérait comme très laid et ne se faisait aucune illusion sur son charme physique. Il regrette dans le livre que cette laideur, qui rebutait certains de ses clients en montagne, n'ait jamais fait peur ni à ses créanciers ni à sa femme. Il avait laissé courir la légende selon laquelle il avait conclu un pacte avec le diable, lequel lui aurait donné un onguent diabolique dont il s'enduisait le bout des doigts et qui lui permettait ainsi de tenir sur les parois les plus lisses. En grimpant un jour en solitaire dans le massif du Catinaccio, qu'il connaissait très bien, il a croisé une cordée qui lui a demandé s'il était bien le diable. « C'est normal, a-t-il répondu, puisque je lui ressemble. » La face nord de la pointe Emma. Je ne connais pas de maître plus irréductible, plus intransigeant que l'estomac. Il n'est pas de sophisme ou d'axiome capable de l'apaiser. Pour lui, une seule chose compte, la pitance. À cette époque radieuse, mon enthousiasme pour la montagne, pour l'escalade était immense. Mais peut-être le vrai mobile, c'est intentionnellement que je dis peut-être, avait-il un nom, la lutte pour la vie. La face nord-est de la pointe Emma, à laquelle personne n'avait osé penser, m'aurait donné l'immortalité. Et un beau jour, où était arrivé du palace du col de Carezza un groupe important d'alpinisme de salon sous la conduite du docteur Christo Manos, je me lançais à l'assaut. Ce n'est pas tout à fait par hasard, on peut le penser, que je saisissais l'occasion. Je n'avais pas grande confiance en la réussite. Mais devant un tel public de profanes, un échec ne ternirait pas d'excessive façon les lauriers que j'allais certainement cueillir en gravissant simplement la moitié de la paroi. Et, de plus, je tenais sans doute à me produire devant le docteur Christo Manos, personnalité marquante du club alpin austro-allemand. Je ne m'élevais guère qu'à mi-hauteur de la paroi, jusqu'à cette fissure parfaitement fermée par un surplomb qui est précisément la clé de l'escalade. Je multipliais les tentatives spectaculaires devant ce public de naïfs qui me regardait la bouche ouverte et au grand effroi de la gérante du refuge qui me voulait du bien. Elle était la seule personne au monde à me comprendre et à prendre mes misères en pitié. Une fois convaincue qu'on ne passait pas là sans s'exposer à un grave danger et que pour courir un tel risque, il fallait au moins avoir non pas une contrefaçon d'espadrilles, mais des espadrilles dignes de ce nom. On les appelait alors les chaussures de chat, et mon grand rêve était d'en posséder une paire. Quand donc je crus avoir assez fait pour démontrer à tout un chacun que je n'étais pas un lâche, je redescendis. Au refuge, je fus accueilli par les hôtes de l'hôtel Carezza avec des exclamations, des sourires, des poignées de main. Les vainqueurs de la face nord de les guerres n'ont certainement pas reçu un plus bruyant accueil. Le docteur Christomanos manifesta son admiration d'une manière moins platonique. Il me mit dans la main 17 florins en me disant « Mon cher Piaz, achetez-vous une bonne paire d'espadrilles et vous réussirez. » Aujourd'hui encore, je garde le souvenir reconnaissant de ce geste généreux. Un geste dont j'ai toujours tenu compte, même lorsque, sur le plan politique, le docteur devint mon ennemi juré et chercha à me nuire. On dit que si la veille de Waterloo, le guide qui accompagnait Napoléon avait tout simplement répondu « oui » à une question que lui posait l'empereur à propos de la topographie du dit champ, ou en tout cas avant que Milo ait reçu l'ordre de faire donner les cuirassiers, la carte de l'Europe eût été changée. Petite cause, grands effets. Toute proportion gardée, cela aurait bien pu être mon cas. Si Christomanos ne m'avait pas fait cadeau de ses 17 florins, je serais peut-être devenu un méchant maître d'école, plein d'amertume, dégoûté de tout et de tous, comme un déclassé dans une situation qui n'est pas faite pour lui. Peut-être, à l'heure qu'il est, voyagerais-je dans ce pauvre monde avec une odeur de sacristie dans mes vêtements bien brossés, avec l'humble maintien du sujet moyen et comme il faut, pleurant l'Autriche perdue et le doigt toujours mouillé d'eau bénite, et surtout l'échine parfaitement immunisée contre ce mal de l'ankylose qui me fera souffrir jusqu'au tombeau. Dès lors, j'eus les espadrilles réglementaires et je cessai de jouer le rôle de cette mouche qui, s'étant enfarinée la tête, se prenait pour un meunier. Peut-être aussi commençais-je à comprendre, ce jour-là, que pour être un bon grimpeur, au vrai sens du mot, la témérité, l'ambition, le besoin pressant d'argent ne suffisent pas. Je me mis à penser sérieusement à l'escalade de la face où j'avais échoué, et je me mis en quête d'un compagnon, car je savais qu'il s'agirait d'un duel à mort. Mais tout le monde me rit au nez. Alors, je pris la décision d'essayer seul. Une décision où entrait un peu de fatalisme oriental et une grande confiance en mon habileté. La proximité immédiate du refuge, aussi, et le voisinage d'êtres humains m'était un encouragement. Même si l'on ne pouvait me porter secours en cas de besoin, la seule pensée qu'on pouvait, en cas de catastrophe, récupérer mon corps me donnait un sentiment de tranquillité presque métaphysique, et il me semblait bénéficier d'un avantage énorme par rapport à Winkler, dans la première ascension de sa tour. Qui peut connaître les fils invisibles qui font mouvoir les marionnettes humaines? Et un beau jour, après avoir fait à Mademoiselle Marietta la promesse solennelle que je ferais demi-tour s'il y avait trop de danger et que je m'exposerais pas inutilement, je courus à l'attaque. Les détails de l'escalade, je les ai complètement oubliés. Je me rappelle seulement le grand nombre de gens qui regardaient depuis la terrasse du refuge. Et quand j'arrivais au point critique, le fameux surplomb, après l'avoir bien étudié, j'eus une crise de conscience. Je compris que le bilan ne m'était pas favorable. La fissure dans laquelle je ne pouvais introduire que la main gauche était longue de plusieurs mètres et paraissait surplombée. En cet instant, la seule fois de toute ma vie d'alpiniste, pour autant que je me souvienne, je jouais quitte ou double avec la vie. Je n'avais examiné ni les reliefs minuscules ni les autres possibilités. Je ne connaissais pas encore cet évangile, pour moi proclamé plus tard, qu'il faut grimper surtout avec les yeux et la tête. Et Preuss, fulminant du haut de sa chair resplendissante, n'avait pas encore énoncé sa thèse séduisante et chevaleresque. On n'a pas le droit de faire à la montée un passage que l'on ne se sent pas de redescendre sans moyens artificiels. Réussir ou mourir, tel était le problème. Et je partis avec la seule aide de la main gauche. Bien sûr, à cette époque, la vie n'avait pas pour moi que des attraits. Parfois, le couvercle du cercueil peut représenter une solution qui n'est pas absolument terrifiante. Comment ai-je fait ? Je l'ignore. Mais je réussis parce que je fis appel à toutes les qualités qui font l'homme et le grimpeur. Force, souplesse, jeunesse, amour-propre, ambition. Parce que je livrais bataille pour la défense de mon propre moi, réveillé par un instinct de conservation élémentaire et désespéré. Ce que j'ai éprouvé, ce que j'ai ressenti, lorsque, après quelques mètres, je pus enfoncer dans la fente tout d'abord mon bras gauche, puis le genou, je ne saurais le décrire. On ne décrit pas le ciel. L'émotion du damné qui, du milieu de la fournaise, apercevrait à l'improviste la sortie de la gêne serait à peu près celle qui m'empoigna quand j'eus introduit mes membres épuisés dans la fissure devenue cheminée. Il n'était plus question de faim, ni de pain, mais de la vie. C'était là démence pure, et pourtant, même si je ne puis la justifier, je ne la regrette pas, car toute folie de jeunesse a son côté de lumière. Nous sommes aujourd'hui à l'âge du surhomme de l'escalade. Aujourd'hui, le plus obscur des membres de la confrérie compte pour le moins à son actif l'escalade d'une paroi de 600 mètres au minimum, est tellement lisse qu'en comparaison, la vitre de la fenêtre fait figure de champ labouré. Aujourd'hui, en cet endroit, 46 ans après, il y a deux pitons d'assurance que l'on utilise même comme un escalier. Et cela suffit, ce me semble, à montrer la distance qui sépare dorénavant l'art du grimpeur d'aujourd'hui de ce qu'il fut un temps. Ma technique à l'époque était très poussée. J'étais très agile et parfaitement entraînée. Pourtant, je ne puis ni ne veux justifier ce geste insensé ni en atténuer la portée. Même en admettant qu'à l'origine de cette perte du contrôle de moi-même, il y a purement et simplement l'ambition. Car au fond du trou, à mi-pied, tout près du refuge, un public nombreux jouissait du spectacle dans l'attente du triomphe ou de la tragédie. Mais à dater de ce jour, on me prit au sérieux. Même les vrais alpinistes, qui regardaient avec respect la sombre, l'effrayante muraille, vaincue pour la seconde fois 7 ans après seulement. Ce fut une victoire assez silencieuse, pas de point d'exclamation. Je commençais à devenir un véritable alpiniste. Tiré le diable des Dolomites.